L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Karine Bécher-Golovko, professeure de droit invitée à l'Université d'État de Moscou. Avec elle, nous allons analyser d'un point de vue juridique, puis politique et géopolitique, l'utilisation des qualificatifs de terrorisme et de génocide en relation avec ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. En réponse à l'attaque lancée le 7 octobre par les différents mouvements de la résistance palestinienne contre Israël, le Tsahal bombarde depuis la bande de Gaza. Tel Aviv a également instauré un blocus complet de l'enclave, y empêchant l'approvisionnement en eau, en nourriture, en électricité, en médicaments et en carburant. Les médias de grand chemin et leurs experts maison répètent en boucle la condamnation sans appel des actes terroristes, inhumains et barbares des combattants du Hamas et le droit inaliénable d'Israël de se défendre avec tous les moyens. Il va sans dire que cette position occidentale a fait fermer les yeux de beaucoup quant à la réponse disproportionnée de l'armée israélienne. En effet, selon le bilan officiel, environ 1400 personnes sont décédées suite à l'attaque de la résistance palestinienne, alors que les bombardements de l'aviation de Tsahal ont fait plus de 10 000 au cours du seul premier mois, dont une bonne partie d'enfants et de femmes. Il est incontestable qu'on peut qualifier les actes du Hamas contre les civils israéliens de terrorisme. Mais dans ce cas, comment interpréter les attaques d'Israël contre les civils de Gaza? La Convention internationale du 9 décembre 1999 de l'ONU pour la répression du financement du terrorisme donne une définition claire d'un acte terroriste. Selon ce document, il s'agit de tout acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé. Lorsque, par sa nature ou par son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Par ailleurs, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 définit ce dernier comme suit. Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dont l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, tel meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale du membre du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesure visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Ainsi, comment qualifier ce qui se passe à Gaza? Que dire de tout ce qui est dit par les responsables israéliens occidentaux et véhiculé sans recul ni discernement par les médias, avec tout ce que cela comporte comme danger pour la paix dans le monde? Alors, pour répondre à ces questions et donner tous les développements nécessaires, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios Karine Bécher-Golovko, professeure de droit invitée à l'Université d'État de Moscou. Karine Bécher-Golovko, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
Bonjour et merci à vous pour votre invitation, c'est toujours un plaisir.
Tout le plaisir est pour nous. Alors, pour bien planter le décor pour nos auditeurs, dans cet entretien, nous allons essayer de prendre un peu d'altitude par rapport à tout le dialogue ou le débat passionné et conflictuel et essayer de comprendre les choses et de les remettre à leur place. Karine Finet, il s'agit aussi d'aller dans une logique où l'on peut trouver une solution à tout ce qui se passe actuellement dans le monde, comme dépassement des droits de l'homme, destruction de groupes, de populations, et ainsi de suite. Alors, ma première question, Karine Bécher-Golovko, comment analysez-vous ce qui se passe depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza? Et puis, les définitions que je viens de réciter s'appliquent-elles à égalité aux deux belligérants?
Ce sont des questions extrêmement compliquées et délicates. Tout d'abord, extrêmement compliquées parce que lorsqu'on écoute la manière dont elles sont traitées habituellement, on va dire qu'elles sont traitées de manière exclusivement émotionnelle. Que ce soit le discours politique, que ce soit le discours journalistique, nous n'avons que des émotions et de la provocation à l'émotion pour l'auditoire. Donc les gens réagissent de manière émotive et ne réfléchissent pas de manière rationnelle. Et effectivement, essayer de voir ça de manière un petit peu plus rationnelle nous permettrait peut-être d'enlever tout ce voile qui est celui de la politique, des intérêts géopolitiques, des circonstances, pour essayer de comprendre un petit peu quand même ce qui se passe sans prétendre évidemment à donner une vision véritable et exhaustive. Je voudrais rappeler quand même certaines choses. Tout d'abord, ce côté émotif du traitement de la question du conflit israélo-palestinien vient aussi du fait qu'actuellement, on a l'impression que plus rien n'existe avant le 7 octobre. C'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé.
Oui,
absolument rien. Il n'y a pas eu de problème de violation des résolutions de l'ONU quant à l'instauration d'un État palestinien. Parallèlement à celui d'Israël. Il n'y a jamais eu, on dirait, d'occupation des territoires à proximité par Israël. Il n'y a jamais eu de menaces, il n'y a jamais eu de répression, il n'y a jamais rien eu. Tout se passait merveilleusement bien et tout à coup, on ne sait pas pourquoi, le Hamas s'est réveillé de mauvaise humeur et est parti à l'attaque. On comprend très bien l'absurdité totale de ce discours et de cette position qui est maintenue dans tous les médias occidentaux. Deuxième chose, il commence à sortir, en tout cas dans les réseaux sociaux, certaines images et certaines révélations assez surprenantes. Par exemple, l'on se demande pourquoi tout à coup des journalistes de CNN, de l'American Press et du New York Times ont accompagné, semblent avoir accompagné en tout cas le Hamas dans les premiers jours. Et la question se pose de savoir, et pourquoi? Si c'est vrai, je ne sais pas, il va falloir vérifier, mais ça serait bien en tout cas de le vérifier, parce que si tel est le cas, ça soulève de nouvelles questions. Dans ce cas-là, il y a eu la préparation psychologique de la population pour qu'elle ait un choc, ce qui derrière permet de légitimer tout ce que Israël fait. Donc là, nous sommes beaucoup plus en fait dans l'ingénierie sociale et dans la manipulation de l'opinion publique à des fins politiques précises que dans un véritable travail journalistique qui tendrait à comprendre ce qui se passe, à mettre en lumière les différents éléments du conflit. Ensuite, pour revenir à ces définitions données par la Convention de l'ONU, oui, effectivement, d'un côté, nous avons du terrorisme, du côté du Hamas, comme le terrorisme accompagne toutes les guerres.
Oui.
C'est un élément des conflits armés. Ce qui est manipulé dans le discours politico-médiatique, c'est cette volonté de le prendre comme un élément en soi. C'est-à-dire qu'on considère et on qualifie cette agression du Hamas comme du terrorisme, indépendamment du conflit armé qui existe autour.
C'est-à-dire décontextualisé.
Absolument. Ce qui permet en fait donc de déresponsabiliser complètement Israël et de faire reposer a priori toute la responsabilité sur le Hamas. À l'inverse, l'on voit dans les médias une approche assez surprenante, je dirais presque une espèce de nouvelle définition journalistique du génocide qui va à l'encontre des définitions que l'on trouve dans les conventions internationales, notamment celle que vous avez citée, qui est la convention fondamentale en la matière. Et notamment, c'était dans les médias français, notamment, il y avait un expert qui expliquait très gentiment que certes, bon, Israël va peut-être un petit peu loin, mais de toute façon, c'est pas grave, c'est normal, c'est la guerre, et ça n'est pas du tout un génocide, puisqu'il n'y a pas la volonté d'éradiquer complètement la population palestinienne. Or, nous voyons que si on s'arrête réellement aux définitions juridiques, la question n'est pas de savoir
même
si...
Même une personne.
Voilà, s'il y a volonté d'éradiquer, dans ce cas-là, il suffit que cela concerne une seule partie de la population, de ce peuple en tout cas. Donc nous voyons effectivement un traitement médiatique de poids de mesure, parce que a priori une partie correspond à la ligne atlantiste aujourd'hui dominante, une partie ne correspond pas à la ligne atlantiste aujourd'hui dominante. Et c'est bien tout le problème en fait du droit international tel que nous le vivons actuellement, c'est qu'il existe dans la mesure où il est reconnu. Et il
c'est
une réalité simple, absolument évidente, mais
il y a aussi j'ai vu je vais vous juste une petite parenthèse et puis je vous laisse continuer votre développement. Il y a aussi le droit de la guerre, c'est-à-dire que une armée a le droit de se défendre quand elle est attaquée.
Tout
mais
à fait.
Elle n'a pas le droit, selon le droit de la guerre, hein, de faire une réponse disproportionnée.
Absolument.
À l'attaque qu'elle a reçue. Elle n'a pas le droit de viser son discernement entre ceux qui l'ont attaqué et les civils. Et puis, il y a même un article de la loi qui dit que même quand vous voyez votre agresseur et qu'il y a autour de lui des civils et vous n'êtes pas sûr de l'atteindre lui uniquement, vous n'avez pas le droit de tirer.
Le problème, c'est que le droit de la guerre, c'est du droit international. Ça régule des rapports entre des parties au conflit qui, en général, sont, sauf pour le cas des guerres civiles, hein, ce qui est autre chose, régule des conflits entre différents États. Qu'il soit reconnu ou qu'il ne soit pas reconnu, c'est autre chose. Et ce droit ne sera appliqué que si les parties sont d'accord pour le faire, puisque rien ne peut les obliger à le faire. Et ce qui est encore plus important, tout manquement, toute dérogation à ces règles internationales ne seront sanctionnées, un, que s'il existe des juridictions qui sont reconnues par les États pour le faire, et deuxièmement, ce sera toujours la justice des vainqueurs. Mmh. Donc, le vainqueur, de facto, derrière, va avoir une certaine impunité. Et l'on voit ainsi toute la limite du droit international et cette espèce de culte assez surprenant qu'on lui voue aujourd'hui, comme si seul le droit international devait pouvoir tout résoudre, comme si seuls les organismes internationaux pouvaient tout résoudre. Ils ne peuvent strictement rien résoudre à partir du moment où il y a un conflit ouvert. Et c'est ce que l'on voit depuis l'Ukraine.
D'accord.
Parce que le droit international et ses organismes posent, pour un moment donné, un certain rapport de force. Actuellement, le rapport de force a changé, puisque nous vivons dans le système de l'après-Seconde Guerre mondiale. Il a largement changé. Nous sommes passés d'un système bipolaire à un système globaliste et qui, aujourd'hui, est un système globaliste qui est, on va dire, remis en cause. Mais pour l'instant, il est toujours vivant. Donc, le système, effectivement, des organismes internationaux ne permet pas de remettre en cause ce système, puisque c'est ce système qu'il sert.
D'accord.
Finalement.
Bien.
Si l'on veut le changer, il va falloir gagner.
Alors, la deuxième question, Karine Bechegolovko, selon les conventions de l'ONU, quand la terreur est utilisée dans le cadre d'un conflit armé, le droit international humanitaire s'applique aux différents acteurs étatiques ou non étatiques concernés. Il impose un cadre pour l'usage de la force, ce que je disais tout à l'heure, le traitement des combattants et des civils et la sanction des crimes, les situations d'occupation militaire sont couvertes aussi par le droit des conflits armés. Alors, comment expliquez-vous l'aveuglement de l'Occident global dans son soutien sans limite à Israël, évoquant uniquement son droit à la légitime défense, autodéfense, sans aucune référence au droit international humanitaire?
L'Occident actuellement oublie on va dire, le droit international humanitaire, en tout cas en ce qui concerne Israël, parce qu'il s'en souvient parfaitement lorsqu'il s'agit du Hamas ou lorsqu'il s'agit de, d'entités étatiques qui les dérangent, parce que ce droit les dérange à ce moment-là. C'est-à-dire que, a priori, politiquement, l'Occident ne veut pas devoir qualifier les actes d'Israël sur le plan juridique. Sinon, il serait contraint de devoir qualifier ces actes de violation des conventions de Genève en ce qui concerne, un, le traitement des populations civiles dans les zones occupées, deux, le traitement des populations civiles non combattantes dans les zones de combat, et le troisièmement, le tir systématique sur des zones civiles, sensibles militaires, et à travers les déclarations que l'on a entendues à droite à gauche, à mon avis, les éléments constitutifs d'un crime de génocide sont déjà constitués. Donc, nous voyons ici que, en ce qui concerne l'Occident, mais c'est général.
Général, oui.
C'est que le politique prime sur le juridique. Le droit n'est toujours utilisé que dans la mesure où il va permettre de défendre une certaine une position politique. Le droit, ça n'est qu'un instrument. Et aujourd'hui, on a tendance à en vouloir en faire une religion.
Oui.
Mais le droit, ça n'est qu'un instrument. Donc, si vous êtes fort, vous pourrez l'utiliser comme vous le voulez. Si vous n'êtes pas fort, vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. De toute façon, vous perdrez. C'est comme lorsque vous avez un combat à l'épée. Tous les deux ont une épée. Tout le monde a le droit international. Pour autant, il n'y a toujours qu'un seul gagnant qu'on a à l'épée. En matière juridique, c'est pareil.
D'accord. Bien. Alors, la question suivante. Donc, les déclarations de certains responsables israéliens qualifiant les Palestiniens d'animaux humains font rappeler à bien des égards les affres du colonialisme subi par beaucoup de pays dans le monde. Et alors, le fait d'avoir occulté, c'est ce que vous avez justement évoqué dès le début de l'entretien, que le peuple palestinien souffrait depuis des décennies de l'injustice colonial que lui impose l'État hébreu, ne crée-t-il pas les mêmes conditions de déchaînement de la violence comme dans toutes les régions où le colonialisme a sévi dans ces derniers siècles? Et ainsi, les damnés de la terre, disons, de Frantz Fanon est-il toujours d'actualité? Et ce système, s'il est vraiment... C'est le système colonialiste qui sous-tend la situation géopolitique mondiale actuellement. Est-ce que ce n'est pas tous les peuples du monde, finalement, qui risquent d'en pâtir d'une manière ou d'une autre?
C'est vrai que nous sommes dans une situation assez surprenante. Tout d'abord, il faut se rappeler que les rapports entre les États, c'est un peu comme les rapports entre les individus. Il y a toujours des forts, il y a toujours des faibles, il y a toujours des États forts, donc dominants, il y a toujours des États faibles, donc dominés. Les rapports entre les dominants et les dominés ont évolué à travers les siècles, mais il y a toujours eu des rapports de domination. Il y a eu les empires, il y a eu les périodes coloniales, il y a eu les périodes d'occupation. Ce sont différentes formes de domination, mais ce sont toujours des dominations, en quelque sorte. Aujourd'hui, nous sommes effectivement dans une situation extrêmement particulière, parce que la globalisation, par définition, je dirais, sous-tend un système de colonisation généralisée, c'est-à-dire un centre qui utilise la périphérie et qui rentabilise la périphérie. C'est-à-dire, et on voit ça au niveau économique, avec, quand on voit les rapports, par exemple, entre les États-Unis et la France, où les États-Unis utilisent l'arme judiciaire contre certaines entreprises françaises à partir du moment où ça peut porter atteinte aux intérêts économiques de certaines entreprises américaines. L'on voit, c'est un exemple, et ça ne concerne pas que la France, mais c'est simplement un exemple. L'on voit, par exemple, aussi l'occupation sur le plan idéologique, avec la formation des élites en Occident. Il y a certes ce programme des Young Leaders que tout le monde connaît, mais d'une manière beaucoup plus générale, avec les processus de Bologne, avec tous ces processus de formation et d'éducation, se met en place une seule vision du monde qui correspond aux intérêts atlantistes. il y a une manière d'occupation beaucoup plus, physique et directe. Rappelons quand même qu'il y a toujours plus de 100 000 militaires américains sur le sol européen.
Absolument.
Donc, et ça n'a rien à voir avec les dangers réels qui peuvent exister ou fantasmer qui n'existent pas. Donc, il y a une forme d'occupation qui est culturelle aussi, musicale, etc. Donc, dans tous les domaines. C'est effectivement un mécanisme de colonisation généralisée, d'une façon un peu soft, mais qui existe réelle, qui porte donc l'exploitation des ressources économiques, naturelles, des zones qui sont dominées, au service, et des ressources également politiques et intellectuelles, au service d'un seul centre, celui qui domine. Ce conflit en Israël ressort de cette logique, comme le conflit en Ukraine ressort de cette logique, parce que tous sont des conflits secondaires de ce conflit principal. Le problème de la globalisation, c'est que c'est un système qui, par définition, ne peut être que totalitaire. C'est-à-dire que si l'on ne rentre pas dans ce système de globalisation, il n'y a plus de globalisation. Donc, ce système est obligé d'imposer son contrôle sur toutes les régions du monde, par proxy ou de manière directe, en organisant des révolutions, en organisant des coups d'État, en soutenant des armées, comme on le voit avec l'armée d'Israël. Et c'est un moyen qui permet de contrôler les situations. Pour une raison ou pour une autre, la création d'un État palestinien n'entrait pas dans les intérêts de ce système atlantiste. Donc, cette partie de la résolution de l'ONU n'a pas été mise en œuvre quand, en revanche, l'État d'Israël a été créé.
Il y a une chose quand même, que je pense qui est assez insidieux dans la façon avec laquelle ce système globaliste agit. Parce que, par exemple, on fait une fixation sur ce qui se passe actuellement en Palestine, entre les mouvements de la résistance palestinienne et Gaza, et Israël, où on fait une fixation sur ce qui se passe en Ukraine ou ailleurs. Et puis, on met, à partir de là, avec la manipulation et l'ingénierie sociale, on met en place des lois ou une vision, ou une façon de faire, en faisant comprendre aux gens qui regardent que non, vous inquiétez pas, ce n'est pas vous, c'est juste cela. Mais en réalité, une fois que le système est mis en place, c'est tout le monde qui en pâtit.
Évidemment, puisque
c'est un peu durant la Deuxième Guerre mondiale, on faisait comprendre aux gens ces lois d'exception et tout, c'était juste pour la communauté juive, mais une fois que le monde, le reste de la population n'a pas réagi, et ben ces lois, elles se sont en fait généralisées à tout le monde après.
C'est-à-dire que l'on donne l'habitude aux gens de la lâcheté. Et on les rassure dans la lâcheté. On va dire que la majorité des gens ne sont pas des grands combattants. Ils s'occupent de leur vie, de leur famille, ils ont leurs habitudes, et c'est normal, je dirais. Et tout système totalitaire, qu'il s'agisse des systèmes fascistes, qu'il s'agisse du système globaliste, s'appuie sur cette masse de population qui finalement va s'adapter à peu près à tout, tant que ça ne la touche pas personnellement. Et les gens oublient effectivement, comme vous le rappelez à très juste titre, un petit détail, mais un détail de taille, c'est que à partir du moment où on ouvre la brèche à la possibilité de considérer qu'il y a des hommes et qu'il y a des sous-hommes, tout homme qui ne va pas rentrer dans le cadre idéologique posé va devenir un sous-homme.
Ouais.
Donc, potentiellement, tout pouvoir totalitaire ayant besoin d'écraser pour pouvoir survivre va de plus en plus se radicaliser, va devenir de plus en plus violent et ira de plus en plus loin jusqu'à votre porte. Et ça, c'est effectivement une chose qui n'est pas dite, et toute la manière dont tous ces conflits sont présentés va effectivement dans ce sens de dédramatisation et de simplification à l'extrême d'un gentil qui est étiqueté gentil, donc qui ne peut être que gentil, d'un méchant qui est étiqueté méchant, donc qui ne peut être que méchant. Et surtout, si l'on compare, par exemple, avec certains mouvements qui ont eu lieu en Europe, en France, lorsqu'il s'agit des gilets jaunes, lorsqu'il s'agit des manifestations contre le Covid dans différents pays européens, les États, comme par hasard, avaient un droit immodéré de recours à la force physique contre les personnes qui remettaient en cause cet ordre global. Donc, et ici aussi, les choses étaient présentées de manière très particulière. Ces gens sont présentés tout de suite comme des extrémistes, comme presque des terroristes, parce que, effectivement, pour le système global, c'est une terreur, dans le sens où ils leur font peur, parce qu'ils remettent en cause ce système. Ils risquent de réveiller la population. Donc nous sommes effectivement, oui, dans un système qui ne peut se maintenir que par la force et par la violence, mais qui a besoin de cacher cette violence en détournant l'attention sur des conflits extérieurs. En plus, c'est tellement rassurant quand même. On va être clair, vous prenez le français moyen qui a du mal à payer ses factures d'électricité qui partent en flèche, dont les salaires, franchement, n'augmentent pas du tout, qui voit qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, objectivement, dans les supermarchés, dans les pharmacies, etc. Et on lui montre des pauvres Palestiniens qui se font un peu massacrer. On leur montre, et on le montre pas trop, mais un petit peu quand même massacrer. On montre des pauvres Israéliens qui, au début, ont été massacrés aussi et qui, depuis, se vengent. C'est rassurant de voir qu'il y a pire que chez soi. Vous ne trouvez pas ? C'est cynique, hein, c'est ignoble, c'est absolument amoral. Nous vivons une période absolument amorale, donc ça rentre dans cette logique. Après, c'est aux gens aussi à réagir et à se poser des questions, parce qu'ils ont quand même digéré déjà les fausses armes chimiques en Irak. Ils ont digéré les fausses couveuses à l'époque aussi, au Koweït. Ils ont digéré les faux massacres faits par la Serbie contre les autres peuples. À chaque fois, les gens digèrent.
Des guerres
et à chaque fois, ça justifie des guerres. Donc maintenant, quand on leur remontre à nouveau ces bébés israéliens, enfin on leur montre pas d'ailleurs, on leur dit qu'à priori, à nouveau, il y a eu ces bébés israéliens qui ont été massacrés, ce qui justifie de partir derrière complètement en vrac, ils pourraient peut-être se poser la question de savoir est-ce que c'est pas à nouveau une nouvelle manipulation. Et là, je suis désolée, il y a une responsabilité aussi de chaque personne, parce que c'est trop facile de dire aussi les gens sont irresponsables. Non, chaque personne aussi porte sa responsabilité. Si un système peut devenir totalitaire, c'est parce qu'on le laisse devenir totalitaire. Après, il ne faut pas se plaindre. À un moment donné, il faut se réveiller aussi.
Oui. Bien. Alors, maintenant, avant de conclure la première partie, j'aimerais quand même passer à un autre sujet, enfin, à un autre volet, mais que vous avez déjà évoqué assez, je crois, que c'était contenu dans vos premières réponses. Mais là, on va aller d'un peu plus clair. Alors, quelques semaines après l'élargissement des BRICS à l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran et l'Égypte en plus, alors, contre toute attente, et c'est à ce moment-là, la résistance palestinienne exécute cette attaque-là du 7 octobre. Comment lire ces événements, à votre avis ? Et est-ce que ce n'est pas, in fine, quand on voit le nombre de porte-avions américains et occidentaux qui sont au large d'Israël et de Gaza, on se demande si ce n'est pas les gisements de gaz offshore découverts il y a quelques années en Méditerranée orientale, notamment au large de la Syrie, de Gaza, du Liban, d'Israël, qui sont en réalité l'objectif, parce que déplacer le Gerald Ford pour... c'est quand même... Hein,
ça semble un petit peu disproportionné, ça.
Ouais.
Et pour répondre à votre question, puisque vous avez suivi la question de la Syrie, faisons un petit parallèle. Souvenons-nous qu'il y a quand même pas si longtemps que ça, il y a eu cette espèce de pseudo-opération antiterroriste menée par l'Occident sous l'égide des États-Unis en Syrie, qui a permis en tout cas aux mouvements terroristes anti-gouvernementaux de se développer à merveille. Ouais. Ça a été d'une efficacité redoutable, jusqu'au moment où la Russie, à la demande des autorités légitimes syriennes et de Bachar el-Assad, est intervenue, elle, pour le coup, pour lutter contre ces mouvements terroristes. Ça s'est très bien passé, sauf pour les terroristes et pour les États-Unis. À l'exception d'une région, vous vous souvenez, cette région de Deir ez-Zor. qui est toujours tenu par les terroristes.
Et Idlib aussi.
Et Idlib. Et ce sont également des régions où il y a des ressources naturelles très importantes. De manière aussi extrêmement étrange, l'aide humanitaire occidentale se dirige exclusivement vers ces deux régions qui sont tenues par les terroristes. On ne dira pas que ce sont les terroristes occidentaux, mais franchement, la question commence à se poser. Donc, pour revenir à la question de l'intérêt du gaz et des ressources naturelles au large de Gaza, qui expliquerait quand même, on va dire, l'inquiétude, en tout cas l'intérêt particulier porté par les atlantistes à ce petit coin du monde. Effectivement, il me semble que il est difficile de nier le fondement de l'intérêt énergétique dans le discours droit de l'homiste, pour dire les choses assez clairement. À chaque fois, lorsque l'on a une poussée droit de l'homiste, quelque part. Il y a en général des gisements quelque part aussi. C'est, manifestement, il
c'est
semblerait
bizarre,
que
mais,
ce soit lié.
Mais quand les choses bizarres se répètent tout le temps.
Peut-être y a-t-il une règle dans ce cas-là. Et l'on se rappellera aussi qu'en Ukraine, le fiston Biden a été mis, alors que Biden était vice-président, à la tête d'un des conglomérats en Ukraine qui gérait notamment les questions de gaz énergétique. Donc, oui, il y a un intérêt direct. Et on en revient à ce moment-là, la question de la colonisation dans le sens très large du terme que
et
vous avez soulevé.
La question du rapport de force.
Et la question du rapport de force. C'est que le centre utilise les ressources naturelles qui se trouvent dans les zones qu'il maîtrise. Donc, il a besoin de maîtriser les zones riches. Si les gouvernements nationaux ne sont pas suffisamment forts pour pouvoir défendre leur centre, dans ce cas-là, ils perdent le contrôle du territoire, de façon directe ou de façon indirecte. C'est à mon avis ce que l'on voit.
Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité Karine Bechegolovko pour la seconde partie de l'émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Karine Bechegolovko, professeure de droit, invitée à l'Université d'État de Moscou. Karine Bechegolovko, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de l'émission.
Mais je vous en prie, c'est toujours un plaisir.
Tout le plaisir est pour nous. Alors, la première question, on a le 30 octobre, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, le président Poutine a décrit les élites dirigeantes actuelles aux États-Unis, dont leurs satellites au sein de l'OTAN, ou l'Europe ou ailleurs, comme les principaux bénéficiaires de l'instabilité mondiale qu'ils utilisent pour soutirer leur rente sanglante. Et il dit, leur stratégie est également claire. Les États-Unis, en tant que superpuissance mondiale, s'affaiblissent et perdent leur position et tout le monde le voit et le comprend, même en jugé par les tendances de l'économie mondiale. Et d'ajouter, il dit que les élites dirigeantes des États-Unis et leurs satellites sont derrière la tragédie des Palestiniens, le massacre au Moyen-Orient en général, le conflit en Ukraine et bien d'autres conflits dans le monde, comme ça a été déjà le cas en Afghanistan, en Irak, en Syrie, et en Libye, et on peut en rajouter encore d'autres. Alors, c'est un point d'une importance vitale, je crois, parce que en confondant les auteurs du conflit ukrainien et de la guerre contre Gaza, Poutine a effectivement mis Israël dans le même panier que l'hégémon occidental et son programme de chaos. Alors, qu'en pensez-vous? Et est-ce ça la raison, justement, de la présence de toute cette armada occidentale au large d'Israël et de Gaza? Est-ce que, finalement, ce système-là globaliste n'est pas venu
défendre son investissement, parce que Israël, c'était un investissement. Chaque année, il y a des fonds qui viennent. Il veut pas voir son investissement ou son porte-avions détruit.
Il y a effectivement une dimension économique de défense des investissements qui est évidente. Au-delà de ça, j'ai quelques doutes avec la manière dont la théorie du chaos est en général utilisée comme explication à peu près de tout. Il y a un chaos. La question étant de savoir, est-ce que c'est un instrument volontaire qui est absolument maîtrisé, oui. Ou est-ce que c'est une conséquence inévitable ? Le problème, c'est la manière dont c'est présenté aujourd'hui, c'est présenté comme un instrument volontaire et presque un mode de gouvernance. On dit gouverné par le chaos, très souvent. Et là, j'ai quelques doutes sur la situation. Gouverné par le chaos, c'est une gouvernance qui coûte cher. C'est une gouvernance qui oblige à créer ce chaos, à l'entretenir et surtout à mettre en place des forces phénoménales pour le maintenir à un niveau qui soit proche de la rupture, mais avant le moment de la rupture. Dès que la tension est relâchée, la pression redescend. Vous voyez ces mouvements, si l'on prend une autre région du monde, qui actuellement bouge aussi beaucoup, la Géorgie et l'Arménie. Il y a eu un investissement phénoménal en Géorgie, au niveau de toutes les institutions internationales. Il suffit que vous preniez à Tbilissi pour voir toutes été représenté. Et même ce qui était très intéressant quand j'y étais plusieurs fois avant le Covid, vous voyez par exemple un bâtiment du représentation de l'OCDE qui est au troisième étage d'un bâtiment. Le bâtiment est laissé en délabrement sauf ce troisième étage. Vous avez à côté une représentation dans une autre rue d'un organisme international qui est, je me souviens très bien, dans un bâtiment à un étage assez long, juste est rénové ce bâtiment. Donc il y a, après vous allez dans certains pubs dans le quartier Vera, et là vous avez les drapeaux de la CIA qui sont mis,
dans les pubs de la CIA.
Vous avez des drapeaux aussi de certains forces militaires américaines, et vous voyez plein de militaires le soir de toute façon encore en uniforme. Bon, il suffit de sortir un téléphone comme j'ai fait pour qu'ils partent en courant, c'est assez amusant, mais bon, sinon ils sont là. Donc il y a eu réellement une prise en main très très forte. Et puis petit à petit, les conflits se sont développés, ils pensaient que le territoire était gagné et la pression a été légèrement relâchée. Ensuite, ça a été transféré vers l'Arménie à côté, vers l'Ukraine à côté, enfin un peu plus en bas, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Vous voulez dire que c'était après 2008, après.
Voilà, après, tout à fait. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a vu ? Ben, on a vu que actuellement, nous sommes arrivés à une situation inverse. C'est-à-dire, avant, nous avions une Géorgie profondément anti-russe, avec une Arménie qui, globalement, jusqu'à Pachinian et encore au début de Pachinian, essayait de garder des rapports à peu près équilibrés. Actuellement, nous voyons une Arménie qui est complètement reprise en main par les États-Unis. Ouais. Et Pachinian a fini de faire son travail. Et à l'inverse, la pression ayant été relâchée en Géorgie, elle revient dans son cours normal, c'est-à-dire de relations beaucoup plus normales avec la Russie. Donc le problème de cette gouvernance, entre guillemets, par le chaos, c'est qu'elle oblige à être constamment sur place. D'où, en fait, si vous voulez, le doute que j'ai sur le fait que ce soit réellement une gouvernance. En revanche, oui, elle existe, le chaos existe, mais comme une conséquence inévitable de la gouvernance globaliste. Parce que c'est une gouvernance qui ne supporte pas l'opposition. C'est une gouvernance qui ne peut se permettre le pluralisme. Il ne peut pas y avoir de pluralisme au globalisme, sinon il n'est plus ce tout. Donc, ils sont obligés de déstabiliser tous les mouvements d'opposition. Ils sont obligés de déstabiliser les gouvernements qui commencent à relever la tête. Ils sont obligés de le faire. C'est une conséquence inévitable. Ils n'ont pas la force pour maintenir réellement tout le territoire. Si réellement ils avaient ce pouvoir de gouvernance globale fanatique, comme on le trouve, vous vous souvenez des cris dans les romans d'anticipation des années 50-60 du siècle dernier, ne vous inquiétez pas, ils n'auraient absolument pas besoin du chaos et de l'instabilité, ils gouverneraient. Or, ils ne peuvent pas objectivement se le permettre. Donc, ce chaos est inévitable pour eux, pour maintenir cette gouvernance. Et d'ailleurs, c'est ce que finalement souligne quand même le président russe quand ils disent qu'ils s'affaiblissent et perdent leur position. Parce que, objectivement, cette gouvernance ne peut conduire qu'à l'affaiblissement du centre, qui ne peut que perdre ses positions parce qu'il est en combat continuel. Mmh. Vous ne pouvez pas continuellement vous battre.
Il y a, et partout dans le monde,
et partout dans
à
le
des
monde,
dizaines
vous
de milliers de kilomètres.
Bien
de
sûr.
Votre...
Au début, lorsqu'ils étaient jusque dans les années 80, jusqu'à la chute de l'Union soviétique, lorsqu'il y avait un mode de gouvernance beaucoup plus intelligent, beaucoup moins radical, ils arrivaient à convaincre. Mm-hmm. Désormais, ils sont commis l'erreur, ou peut-être n'avaient-ils pas le choix non plus, de penser que ça y est, ils avaient gagné la partie. Donc ils n'ont plus besoin de convaincre, ils peuvent imposer. À partir du moment où vous imposez, vous rentrez dans un rapport de force direct. À partir de là, vous ne pouvez plus convaincre, puisque vous imposez. C'est une autre mode. C'est un autre mode de gouvernance, c'est une autre mode de pensée. Donc, là, c'est leur faiblesse. Mais c'est leur faiblesse inévitable, en fait, de tout système.
D'accord. Bien. Alors, la position de la Russie sur le conflit israélo-palestinien a été également présentée par son ambassadeur permanent auprès de l'ONU, Vassili Nebenzia, lors d'une session spéciale de l'Assemblée générale sur la Palestine, deux jours après le discours de Poutine. Et il a clairement indiqué qu'Israël, en tant que puissance occupante coloniale, n'avait pas le droit à la légitime défense ou à l'autodéfense, en un fait soutenu par une décision donc consultative de la Cour de justice internationale des Nations Unies en 2004. Néanmoins, d'un point de vue politique, tout en soulignant que Moscou reconnaît le droit d'Israël donc à sa sécurité, l'ambassadeur russe a souligné que ce droit ne pourrait être pleinement garanti qu'en cas de résolution équitable du problème palestinien basée sur les résolutions reconnues du Conseil de sécurité de l'ONU. Qu'en pensez-vous ? Et peut-on vraiment dire que cette solution pourrait un jour devenir réalité, notamment vu la manière avec laquelle Israël et ses protecteurs occidentaux foulent au pied le droit international?
Alors, pour éviter de me répéter, voilà. Je vais prendre un autre angle, voilà. En fait, pour vous répondre, et voir un peu la question de la position de la Russie sur ce conflit,
oui.
Qui est, il me semble, intéressante. Parce que la Russie soutient Israël. N'oublions pas quand même qu'il y a beaucoup de membres qui ont la double nationalité.
Oui,
que il y a énormément de populations, mais également au niveau des élites. La Russie, au-delà de, je dirais, cette contingence politique court terme, a également, heureusement, une vision stratégique. Général et a un respect réel pour le droit international. C'est peut-être d'ailleurs l'un des rares derniers pays à vouloir à ce point le respecter. Donc, la Russie défend parallèlement, objectivement, la création d'un État en Palestine et très logiquement rappelle une vérité très simple. Lorsque vous êtes une force d'occupation, vous ne pouvez pas avoir le droit de vous défendre, puisque vous êtes l'agresseur.
Absolument.
L'agresseur n'a pas de droit à se défendre. C'est la personne qui est agressée qui a le droit de se défendre. Mais pour des considérations de réelle politique, nous avons donc ces déclarations assez surprenantes, d'un côté où effectivement Israël n'a pas de droit à l'autodéfense, ce qui découle objectivement, et d'un autre côté qu'il faut quand même qu'elle en ait un, et qu'on instaure un État palestinien. Disons que Israël a potentiellement un droit à l'autodéfense si Israël commence à respecter le droit international et si l'on peut effectivement poser des frontières reconnues et établies en fonction des nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui ont eu lieu, qui permettent de répartir les territoires, chacun vit chez soi, on arrête de se tirer dessus. Ça, c'est le scénario, effectivement, qui potentiellement permettrait de sortir du conflit. Maintenant, pour faire court, puisque nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Disons qu'il n'y a pas les conditions objectives, politiques et géopolitiques aujourd'hui réunies pour cela. Le clan atlantiste, dominé par l'élite américaine aujourd'hui en place, n'a pas intérêt, pour une raison ou pour une autre, à l'instauration d'un État palestinien dans la zone, essentiellement la question après de la propriété sur les ressources énergétiques qui sont dans les eaux, à mon avis, est l'une des questions clés qui bloque définitivement la création d'un État palestinien. Donc nous en arrivons à la deuxième phase, c'est à savoir, pour sortir de cette impasse, il faut changer les conditions. Donc, soit les États arabes arrêtent de jouer le double jeu et réellement se mettent du côté de l'État palestinien, ce qui va pouvoir faire réfléchir dans ce cas-là Israël et les États-Unis. Mais pour l'instant, comme à part quelques jolies, belles déclarations, globalement, il n'y a strictement rien réellement, ni qui n'est fait, ni qui ne sera fait, et soyons réalistes à ce sujet-là, Israël et les États-Unis s'en moquent complètement, à peu près, comme de leur première layette. Deuxième chose, changer les conditions, c'est aussi, dans ce cas-là, dans un sens négatif pour la Palestine, c'est quand, à ce moment-là, Gaza sera complètement rayé de la carte, et l'on revient aux déclarations de Netanyahou qui ont été reprises dans New York Times hier, à savoir que, ou Reuters, à savoir que, dans ce cas-là, Israël estime qu'elle a le droit de pouvoir sécuriser toute la bande de Gaza afin de garantir sa sécurité. Donc, on parle d'une occupation de toute la bande de Gaza, qui pourrait ensuite être mise, et l'on a vu certaines publications aussi dans des médias anglo-saxons, sous une autorité internationale, notamment, souvenez-vous, les États-Unis, la France qui arrive. On comprend peut-être mieux l'hystérie médiatique française du côté d'Israël, et la Grande-Bretagne, qui pourrait donc garantir cette espèce de communauté internationale, enfin, c'est réduite pour le coup quand même, et sur la Palestine qui, si elle change ses gouvernants, pourra dans ce cas-là exister sous forme d'autorité palestinienne. Autrement dit, nous parlons d'une mise sous autorité, donc d'un protectorat de la Palestine et d'une occupation directe de Gaza, pour appeler les choses par leur nom très simplement. Ça, c'est si Israël gagne, ce qui est tout à fait possible, parce que je ne vois pas très bien qui va partir objectivement maintenant en guerre contre Israël et contre les États-Unis. Je ne le vois pas. Donc, et là, on voit les limites du droit international et, je dirais, un peu quand même l'hypocrisie des gouvernements actuels, quels qu'ils soient, dans leur culte du droit international. Parce que c'est très bien de faire des grandes déclarations à l'Assemblée de l'ONU. C'est très bien de réunir le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est nécessaire. Oui. Mais c'est pas suffisant. Vous n'allez pas arrêter un conflit militaire avec une résolution de l'ONU. On va arrêter de prendre les gens pour des idiots. Quand vous avez un système qui vous réduit à l'inexistence, vous ne pouvez pas gagner en demandant d'avoir une petite place dans ce système. Ça concerne et les habitants de Gaza qui ne pourront pas habiter gentiment dans ce système s'il y a une domination israélienne sur la zone. Ça veut dire qu'ils sont finis. Mmh. Ça concerne les pays qui sont soi-disant contre le système de la globalisation, mais qui continuent à n'agir simplement que selon les règles posées dans le cadre de la globalisation.
Alors, la question suivante, justement pour pousser un peu le bouchon un peu loin, et qu'on fasse le tour sur toute la question. Depuis le démembrement de l'Union soviétique, donc l'absence du rapport de force, c'est très important et ça rentre dans ce que vous voulez développer depuis le début de l'émission, le monde a enregistré quand même plusieurs anniversaires odieux d'agressions militaires occidentales, notamment américaines, illégales, qui honteusement se sont heurtées au même silence et à la même indifférence. Et en effet, on peut citer d'abord le bombardement de l'ex-Yougoslavie en 1999, pendant 78 jours, l'invasion de l'Irak en 2003, le bombardement de la Libye en 2011, le tout en outrepassant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Et enfin, ce qui se passe actuellement pour la énième fois en Palestine, tout cela, Karine Béchet-Golovko, nous amène à une formulation assez brutale, je me permets. Donc, sans une solution juste pour la Palestine, une paix tangible à travers le spectre multipolaire émergent reste-t-elle encore accessible ou inaccessible, à votre avis? Et puis, l'horreur actuelle à Gaza ne montre-t-elle pas que la paix n'est toujours pas une priorité pour l'empire du chaos?
Le problème de la paix est que, dans tous les cas, elle adviendra. Pour les uns, ce sera une paix de vainqueur. Pour les autres, ce sera une paix de vaincu.
De vaincu, oui.
L'autre problème de la paix est que, qu'il s'agisse de la paix des vainqueurs ou de la paix des vaincus, il faut réunir un certain nombre de conditions. Si l'on fait un parallèle avec le conflit ukrainien, pour qu'une paix réelle puisse avoir lieu, il faut que certaines conditions soient réunies. Sinon, c'est une escroquerie. On a vu ça avec les accords de Minsk, qui ont servi en fait à remilitariser l'Ukraine. On a vu ça avec les accords d'Istanbul, qui ont servi simplement à faire reculer l'armée russe sans contrepartie et qui a ensuite permis à l'armée atlantico-ukrainienne et au groupe néo-nazi de lancer des mouvements monstrueux de répression contre les populations de la région de Kiev, de la région de Kharkov, et des zones desquelles l'armée russe s'est retirée. Donc, il n'est pas toujours bon de chercher la paix, aussi paradoxal que cela puisse paraître, si l'on veut réellement pacifier la situation. Et ça, c'est un discours que, malheureusement, nos élites politiques ont énormément de mal à assumer. Tout d'abord parce que c'est objectivement un discours qui va passer très mal dans la population. Vous ne pouvez pas dire aux gens, malheureusement, maintenant, on ne peut pas négocier la paix, il faut encore se battre. Cela demande une carrure politique énorme pour pouvoir le faire. Quand on voit le niveau de la carrière politique des hommes politiciens en Occident, ça fait largement sourire. Évidemment, ils ne peuvent pas poser ce genre de discours. La Russie essaye, les élites politiques russes essayent un petit peu, au moins en ce qui les concerne directement, de dire qu'il faut remplir les objectifs que l'on s'est posés pour le faire, même si elles aussi ont du mal à assumer ce discours, parce que c'est un discours qui n'est pas dans l'air du temps. Et c'est extrêmement difficile, objectivement, pour toute élite, d'aller à l'encontre de l'ère du temps. Or, c'est le seul moyen de pouvoir changer les choses et, pour le coup, de réellement mettre en place les conditions d'une paix durable. Donc, pour arriver à cette solution de paix, qui elle-même permettra d'arriver à l'État de Palestine, dans ce cas-là, il faut mettre en place toutes les conditions autour qui vont pouvoir d'arriver, non pas d'abord à l'État de Palestine qui va pouvoir créer la paix, mais à l'inverse, de pouvoir créer les conditions de la paix qui va permettre la création de l'État palestinien. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que négocier avant l'épuisement militaire du conflit, c'est le meilleur moyen, en fait, pour perdre la paix. Donc, il faut trouver ce juste milieu entre les deux. Tout d'abord, et cela concerne et le problème de Gaza et le problème de l'Ukraine, effectivement, on ne peut pas faire la guerre pour détruire l'autre. Vous ne pouvez pas simplement, vous pouvez vous battre contre une armée et détruire cette armée. Le problème, c'est que si vous voulez détruire l'autre, dans ce cas, vous allez détruire tout un peuple. Oui. Et comment vous faites derrière pour vivre avec lui? Donc, c'est bien ce que rappelle la Russie. Elle ne fait pas la guerre à l'Ukraine. Elle se bat contre l'armée atlantico-ukrainienne et les formations néo-nazies, ce qui est complètement différent. Le problème d'Israël, c'est qu'Israël, actuellement, se bat contre les Palestiniens, pas contre le Hamas. Et c'est en cela que sa démarche est bien pire que coloniale. Sa démarche est fasciste. Et le problème qu'il est absolument interdit aujourd'hui de parler du fascisme dans la conduite politique d'Israël en raison de l'Holocauste. Et il me semble que c'est un stade, c'est une immunité que Israël vient de perdre aujourd'hui avec la manière dont elle mène cette guerre contre la Palestine. Ce n'est pas parce que les ancêtres ont été victimes d'un génocide, que les petits-enfants peuvent, eux, commettre un génocide. Il n'y a aucune impunité à ce niveau-là. Ils ont même une responsabilité d'autant plus grande qu'ils l'ont payé dans leur chair. Et qu'ils devraient avoir au moins cette mémoire historique qui aurait dû les bloquer, les limiter, leur faire comprendre qu'on ne doit pas commettre cette horreur. Parce que ce ne sont pas des monstres qui commettent ces crimes, ce sont des êtres humains qui se comportent comme des monstres. Mais ce sont des êtres humains qui tuent systématiquement d'autres êtres humains. Et ça, c'est impardonnable. Et ça ne doit pas être pardonné. Et ça, c'est une des conditions de la paix. Si la communauté internationale redevient une communauté internationale et arrête d'être un ensemble de petits caniches de salon atlantistes, dans ce cas-là, ils peuvent condamner les dirigeants d'Israël, pas le peuple, mais les dirigeants d'Israël, pour le génocide qui est en train d'être commis. Et ça, c'est un grain de sable énorme qui peut être mis en place pour bloquer cette machine atlantiste. De la même manière que ces mêmes caniches de salon atlantiste, s'ils redeviennent des hommes politiques, peuvent à ce moment-là condamner les massacres commis par l'armée atlantico-ukrainienne sur le sol ukrainien. Et à ce moment-là, c'est encore un blocage qui va être mis dans la machine atlantiste. Ce système globaliste atlantiste ne fonctionne que parce que l'Europe aussi a oublié d'être une puissance. Si l'Europe arrive à redevenir une puissance, ça peut permettre de bloquer ce système. Si les pays arabes redeviennent aussi réellement une puissance autonome digne de leur civilisation historique, dans ce cas-là, ils peuvent aussi, sur place au Moyen-Orient, rebloquer la situation. À mon avis, c'est le seul moyen pour réellement sortir de cette solution.
Bien. Alors, votre propos m'a fait rappeler une position, je ne sais pas, parce que vous soulignez quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement grave en même temps, c'est la baisse du niveau intellectuel des dirigeants. Ça me renvoie à un article que j'ai lu du professeur Sergueï Karaganov, qui réfléchit sur la question de réformer la doctrine nucléaire russe et qui dit que en fait il faut changer la dissuasion nucléaire pour dire, pour faire comprendre à tout le monde que s'il y a encore une escalade, il risque de subir une attaque nucléaire. Cela pourrait ramener à son sens la paix. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Pour qu'une arme soit dissuasive, il faut que votre adversaire pense réellement que vous allez l'utiliser. Si votre adversaire pense que vous n'allez pas l'utiliser, vous pouvez changer votre doctrine autant que vous voulez. Ça ne changera rien, vous n'arriverez pas à convaincre. Et pour que votre adversaire croit réellement que vous allez l'utiliser, il faut arrêter, et ça petit à petit, le discours politique russe commence à changer, mais seulement il y a depuis très peu de temps. Il faut arrêter, par exemple, de dire « on est toujours ouvert pour négocier ». Vous pouvez être ouvert pour négocier, vous n'êtes pas obligé de le crier sur tous les toits, au minimum. Ensuite, il faut avoir un discours beaucoup plus ferme, c'est que vous ne réagissez pas lorsque vous avez des missiles qui partent ou des trucs, c'est pas pour cette raison que tout à coup vous aussi vous avez lancé 3 missiles. Vous attaquez parce que vous avez une vision stratégique de la manière dont vous devez mener ce conflit. Et vous suivez votre vision stratégique, vous ne suivez pas le plan qui est posé par votre ennemi qui a décidé d'attaquer ici, d'attaquer là, et du coup vous allez répondre. Donc il me semble que la Russie doit changer au niveau du discours politique. Ce discours de défense systématique. Elle ne veut pas se poser en agresseur, mais elle n'est pas l'agresseur. Donc ça ne change rien. Elle n'est pas obligée à chaque fois de dire qu'on va répondre ici et là. Là, on a répondu. C'est notre réponse. Non, la Russie doit avoir et doit assumer une certaine vision stratégique. Elle n'est pas non plus obligée de la diffuser sur tous les médias. L'ennemi n'est pas obligé de savoir quelle est sa vision stratégique. Mais il me semble absolument fondamental de modifier le discours politico-médiatique qui est tenu actuellement en Russie et à l'égard du conflit ukrainien, si l'on veut réellement arrêter à ce niveau-là cette façon de cette difficulté, en tout cas, d'être pris au sérieux par l'Occident. Et d'une manière générale, être beaucoup plus sûre de ce qu'elle veut et de ce qu'elle peut. Il n'est pas nécessaire d'annoncer des choses que l'on ne peut pas faire. Parce qu'après, vous vous décrédibilisez. Or, la Russie, je le rappelle, elle n'est pas l'agresseur. Elle n'a pas à se justifier. Elle défend des populations. Elle défend un territoire. Point. Après, il faut l'assumer derrière, politiquement.
D'accord. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Karine Bechet-Golovko, je vous remercie pour toutes ces informations et ces éclairages et cette analyse pertinente avec laquelle vous nous avez ouvert les yeux sur beaucoup de choses. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien, une autre mission pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
Merci à vous, à très bientôt.
C'était Karine Bechet-Golovko, professeure invitée de droit à l'Université d'État de Moscou. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.